Bonjour et bienvenue dans Big Five. Il y a tout juste 20 ans, Arsenal réalisait l'un des plus beaux exploits du foot moderne, être sacré champion d'Angleterre sans avoir perdu le moindre match. On vous propose aujourd'hui de vous replonger dans cette saison extraordinaire, celle des Invincibles. Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires, mais aussi Saul Campbell, Kolo Touré ou encore Dennis Bergkamp. Des joueurs d'exception, emmenés par un manager tout aussi exceptionnel. Comment Arsène Wenger a-t-il mené son équipe vers un tel exploit? Comment a-t-il pensé ce football flamboyant, rapide, spectaculaire? Meilleure défense et meilleure attaque du championnat. Arsenal a livré des batailles mémorables cette année-là, on va en parler. Aujourd'hui, personne n'a encore égalé les Invincibles en Angleterre. Quelle empreinte ont-ils laissé sur le foot anglais? Quel parallèle peut-on faire avec la domination actuelle de Manchester City? Et que reste-t-il des Invincibles aujourd'hui à Arsenal? Pour répondre à toutes ces questions et pour nous plonger dans des souvenirs délicieux, je suis accompagnée de trois habitués de Big Five, Cédric Chapuis, Vincent Deluc et Pierre-Étienne Minondio. Messieurs, bonjour.
Bonjour Marie.
Salut.
Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. C'est une histoire qui s'est comptée en 38 chapitres sur les terrains de Première Ligue. Une histoire qu'on aimerait lire plus souvent pour ce qu'elle contient de détermination, de courage et de beauté. Mais le livre dans lequel elle est couchée ne se rouvrira pas de sitôt. C'est ainsi que Philippe Auclair, le correspondant de France Football à Londres, avait conclu son papier au lendemain de la victoire d'Arsenal contre Leicester le 16 mai 2004. Ultime victoire d'une saison légendaire au cours de laquelle Arsenal a remporté son 13e titre de champion avec 26 victoires et 12 matchs nuls. Cédric, c'est toi qui m'as donné l'idée de consacrer un épisode de Big Five aux Invincibles. Pourquoi cette envie?
Parce que c'est les 20 ans, tout simplement. C'est un chiffre rond. C'est toujours intéressant de se replonger un petit peu dans le foot d'avant aussi, ce côté vintage. Le foot a pas mal changé, mais cette équipe d'Arsenal du début des années 2000 est aussi un marqueur de son époque. Peut-être aussi une équipe qui a un petit peu révolutionné le foot anglais, qui était assez conservateur avant l'arrivée d'Arsène Wenger et d'autres entraîneurs qui ont ouvert un petit peu la voie. Et c'est une équipe qui a marqué l'histoire, tout simplement, parce que c'est un exploit qui n'a pas été fait en Angleterre depuis et qui n'avait pas été accompli depuis 1889 par Preston North End dans un championnat à 11 équipes. Donc voilà, c'est quand même un exploit majuscule. Et puis, à ce côté aussi, cette équipe d'Arsenal au début des années 2000, pour le public français, c'était quand même assez particulier, avec un entraîneur français et puis pas mal de grands joueurs français dans cette équipe-là. Donc forcément intéressant.
Vincent, est-ce que tu couvrais déjà le foot anglais dans le journal?
Alors, je couvrais déjà le foot anglais, mais pas de manière continue. Le spécialiste d'Arsenal, mais pas du foot anglais, était Pierre Ménès. Parce que donc, il suivait l'équipe de France pour l'équipe. Il y avait, comme vient de le dire Cédric, il y avait quand même Vieira, Pires, Henry, qui était, voilà, Arsenal. Et donc, en fait, voilà, c'était Pierre Ménès qui faisait la plupart des matchs d'Arsenal et c'est lui qui a suivi la saison des Invincibles.
Pierre-Étienne, toi, je sais que tu étais encore étudiant, on en a parlé tout à l'heure, tu suivais ça d'un petit peu plus loin. À quoi tu penses spontanément lorsqu'on te parle des Invincibles?
Eh bien, effectivement, moi, à l'époque, je n'étais pas complètement obsédé par le foot anglais comme je le suis maintenant, donc j'avais suivi ça de loin, mais j'ai eu la chance d'assister au dernier match de Wenger à l'Emirates, c'était en 2018. Et en fait, à cette occasion, il a fait un speech pour dire au revoir aux journalistes avec qui il avait des relations tendues. Donc, son objectif, c'est de faire la conf, dire au revoir. Bon, on a passé des années parfois compliquées. Salut la compagnie créole. Bon. Et en fait, juste après, il y a un mec qui est venu qui s'appelle John Cross. John Cross, qui est un grand spécialiste d'Arsenal et qui a dit, au nom de tous les journalistes qui suivent Arsenal, je vais vous faire un cadeau. Et il lui a offert des super bouteilles et il lui a dit, d'ailleurs, c'est une cuvée 2004. Qui est une cuvée qu'on m'a dit qu'on ne pouvait pas battre. Voilà. Et en fait, je me suis dit, voilà, quand je pense aux Invincibles, je pense à ça. C'est une petite anecdote, mais pour dire à quel point ça avait marqué les esprits, les esprits des suiveurs du club aussi, et même voilà, des gens qui suivent le championnat anglais. C'est vraiment, comme il l'a dit très bien, c'est vraiment quelque chose qui a marqué l'histoire du foot anglais.
Alors, repartons un petit peu en arrière pour rafraîchir les mémoires. En août 2023, Arsène Wenger a 53 ans. Il débute sa 8e saison sur le banc d'Arsenal. Avec lui, les Gunners ont réalisé deux fois le doublé Coupe Championnat en 1998 et 2002. Vincent, déjà à ce moment-là, Arsenal vit une période exceptionnelle.
C'est-à-dire que oui, c'est une période... c'est une période dorée pour Arsenal. Déjà, le doublé en 1998, ça venait après quand même des longues années, en plus un peu ennuyeuses, sous le règne de Graham. Il y a quand même une nostalgie de George Graham et de ce foot à l'anglaise avec... Et puis, il y avait surtout une nostalgie du fameux titre de 89, gagné à Liverpool à la dernière seconde du temps additionnel à Anfield, etc. et tout. Mais Arsène Wenger a vraiment changé le paysage à Arsenal. Il a amené des nouveaux joueurs, il a amené une nouvelle diététique, comme l'a dit Cédric tout à l'heure. Il a amené une nouvelle esthétique aussi, parce que c'était vraiment une équipe qui jouait à l'ancienne. Mais en même temps, il n'avait pas fait non plus tout ce qu'il pensait faire. Je me souviens que c'est Rémi Garde qui était à l'époque, qui était une des premières recrues étrangères d'Arsène Wenger. Et quand Arsène était encore au Japon, il appelait Rémi en lui disant « Bon, dis à Patrick d'être patient, j'arrive bientôt. » Parce qu'ils étaient en réserve tous les deux. Ils ne savaient pas qui c'était, Vieira, ils en fichaient. Et il lui disait « Non, mais de toute façon, tu vas jouer avec moi. On va faire une défense à 5, c'est fini le back four. » Et en fait, une fois qu'il est arrivé et qu'il a vu les monstres qui étaient Dixon, Winterburn à gauche, Kion et Adams, il s'est dit « Mais jamais je vais changer, je vais rester longtemps avec eux. » Donc en fait, voilà, la réussite de Wenger, c'est d'avoir gardé un côté très, très old school, d'ailleurs qui était encouragé aussi par la présence de David Dean, qui était aussi quelqu'un qui était attaché aux racines d'Arsenal, et puis tout ce côté visionnaire. Et c'est comme ça qu'il entame la saison 2003-2004. Et là, j'ai retrouvé quelque chose qui m'a complètement fasciné, c'est que pendant la préparation, il joue contre Beşiktaş, et Beşiktaş est entraîné par Lucescu, avec qui ils sont très copains, et lui dit « Écoute, ce qui va nous aider, c'est que moi, je vais observer ton équipe, et toi, tu vas observer la mienne, et puis on en reparle à la fin. » Et en fait, c'est ce qu'il a décidé, par exemple, à mettre Kolo Touré en défense centrale pendant toute la saison avec Campbell. Donc en fait, voilà, il est là-dedans. Il a ce côté anglais, ce côté continental, le côté traditionnel et le côté moderniste, et puis toujours la recherche perpétuelle, et c'est comme ça qu'il lance cette saison-là.
Il faut rappeler qu'avant, les Gunners avaient fait la course en tête pendant une bonne partie de la saison. Mais le 26 avril, précisément 2003, match nul 2-2 contre Bolton. Le titre s'envole et c'est Manchester United, le grand rival, qui est sacré. Et cette désillusion va avoir une importance capitale dans l'histoire de la saison suivante.
Oui. En fait, cette saison 2002-2003, elle est très importante parce que c'est aussi à ce moment-là où il formule la volonté de vouloir devenir invincible. Donc, il le fait dès septembre 2002, donc au début de la saison précédente, et il dit « en fait, je pense qu'on peut aller au bout sans être battu ». Et donc, c'est à partir de là où il formalise le truc, et donc il n'arrive pas à le faire, notamment ils seront battus 2-0 à Manchester United. Et effectivement, le titre s'envole et ça génère une frustration qui fait que, en fait, Wenger s'est dit « je peux à peu près garder la même équipe pour la saison suivante, et juste, rien qu'avec le ressenti, la frustration que cette désillusion a générée, je peut faire quelque chose de grand en 2003-2004.
D'ailleurs, ces joueurs vont lui reprocher d'avoir parlé ouvertement de ce rêve-là, parce que c'est un de ses rêves d'entraîneur, Arsène Wenger, de terminer une saison invaincue. Et le formuler aussi rapidement dans la saison, publiquement, les journalistes le relancent et disent j'en rêve, c'est possible. Les joueurs, à la fin de la saison, lui reprocheront parce que c'était beaucoup trop de pression pour eux, en fait. Et donc, pour eux, c'était un truc un peu impensable. Il n'y a que Wenger, finalement, qui a gardé cette idée-là. Et les joueurs ont mis beaucoup de temps à se dire que c'était vraiment possible.
Mais sa plus grande réussite, c'est peut-être justement d'avoir réussi à insuffler cette détermination et cette haine de la défaite à ses joueurs.
Mais ça, en même temps, c'est aussi quelque chose qui préexistait dans le vestiaire. Parce qu'on voit, effectivement, comme disait Pierre-Etienne, c'est un vestiaire qui a été peu renforcé pendant l'été. La principale recrue, c'est Jens Lehmann, voilà, le gardien allemand. Effectivement, la nouveauté, c'est que Kolo Touré devient tout d'un coup défenseur central. Mais le reste, ça bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Reyes va arriver au mercato, ouais. Il aura un impact marginal. Enfin, voilà. Donc, le refus de la défaite était déjà là. La culture de cette équipe était déjà là. Ce qu'a toujours dit Arsène sur la construction des Invincibles, c'est qu'en fait, les éléments extérieurs devaient être à la hauteur de l'exigence que les gars avaient pour eux-mêmes. Donc, en fait, oui, il a dû l'entretenir, mais c'était aussi entretenu de l'intérieur et naturellement par Patrick Vieira, par des mecs comme ça qui supportaient pas la défaite.
Je pense un des coups de génie de Wenger, en fait, c'est d'avoir placé la barre aussi haut, parce qu'en fait, les plus grands exploits sportifs, souvent, ils se conçoivent en le verbalisant au début, en fait. C'est-à-dire, je sais pas, quand le trophée Jules Verne, voilà, quand il était créé, c'était faire le tour du monde en 80 jours. C'est au début des années 90. Et tout le monde a dit, c'est absolument impossible, en fait, à l'époque, avec les moyens de l'époque. Et en fait, Loïc Perron l'a fait en 79 jours. Voilà. Et ou quand Phelps avait gagné 8 médailles d'or. En fait, il a dit, je vais le faire, je vais battre leur corps. Et en fait, tout le monde a dit, c'est pas impossible. Et peut-être que lui n'y croyait pas, mais le fait de verbaliser des objectifs très, très hauts, avant d'y arriver, ça permet de fixer un objectif commun, en fait.
« Cédric, est-ce que tu peux nous rappeler comment évoluait Arsenal cette saison-là? Qu'est-ce qui caractérisait cette équipe?
Alors, on va beaucoup parler de leur qualité avec le ballon, mais il ne faudra pas oublier que c'est une équipe méchante aussi. C'est un peu ce qui l'a caractérisé, c'est un petit peu ce qui faisait aussi le sel de la rivalité avec Manchester United. C'est qu'il y avait quand même beaucoup de joueurs vicieux, méchants, à commencer par Patrick Vieira. On n'a pas forcément cette image-là avec l'équipe de France de Patrick Vieira, vraiment le taulier méchant qu'il faut pas chatouiller, qui même lui va aller un peu tacler à droite à gauche, même devant derrière, un peu partout d'ailleurs. Mais c'est vraiment une équipe qui avait ce refus de la défaite était caractérisé par un côté intimidant. Et il y a des matchs en fait qui gagnaient rien que dans le tunnel en fait, avant le coup d'envoi, avec leur regard. Donc
c'est tunnel très étroit à Highbury.
Mais voilà, au-delà de ça, oui, c'était une équipe qui avait des principes de jeu très très clairs. Beaucoup de vitesse, c'est un petit peu ça qui impressionnait aussi les adversaires, c'était beaucoup de vitesse, des passes très verticales. Bon, c'était les standards de possession et de pressing n'étaient évidemment pas les mêmes il y a 20 ans, mais c'est une équipe qui ne laissait jamais respirer l'adversaire en fait, parce qu'elle attaquait non-stop. Il fallait tout le temps aller chercher les attaquants devant.
Un système en 4-4-2.
Un système en 4-4-2 avec 4 joueurs devant, qui étaient Ljungberg à droite, Pires à gauche et le duo Henry-Bergkamp devant, mais... C'est un quatuor qui ne cessait de permuter, de bouger. En fait, le fait d'avoir déjà Ljungberg et Pires, qui étaient un petit peu de numéro 10 dans l'âme aussi, aidait un petit peu à avoir ce mouvement, cette intelligence de jeu. Bergkamp, on n'en parle même pas, c'était un joueur qui était le 9,5 absolu à l'époque. Et puis Henry, qui était sans doute l'attaquant le plus complet de sa génération. Donc, beaucoup de mouvements, de permutations, d'intelligence de jeu, des compensations aussi, parce que les deux milieux de terrain qui étaient Vieira et Gilberto Silva, ils pouvaient se projeter dans la surface, mais ils étaient aussi surtout là pour protéger leur défense. Puis avec cette impression de puissance qu'ils dégageaient pour protéger leur défense, et leur défense c'était quand même Sol Campbell, Kolo Touré. Donc voilà, si vous passiez le milieu de terrain, c'était encore une autre affaire. Donc voilà, c'était vraiment la vitesse, le mouvement. Et l'intimidation aussi.
C'est ça. Quand ils arrivaient dans la surface, les survivants étaient fatigués.
C'est un peu ça.
Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Cédric aussi, c'est le rappel de la verticalité du jeu d'Arsenal. En fait, ils cherchaient Henry tout de suite. C'était un 4-4-1 d'ailleurs, parfois, parce que Bergkamp était un peu décroché. Mais ils cherchaient tous Thierry Henry très vite. Ce qui fait qu'en équipe de France, à l'époque, et ça a duré souvent, il y avait le même problème, y compris quand Zidane est revenu. En fait, ça ne se passait pas de la même manière, parce que l'équipe de France ne cherchait jamais Thierry Henry très vite. Et lui, il faisait les courses comme il faisait Arsenal. Première fois, ça ne vient pas. Deuxième fois, ça ne vient pas. Troisième fois, ça ne vient pas. Arsenal, ça venait tout de suite. Il savait qu'il faisait la course, le ballon arrivait dans la profondeur. Et ça, c'était avec sa vitesse, mais il les a tous tordus.
Les courses vers l'avant de Pires qui compensaient, parce que, évidemment, Thierry Henry, on le connaît, il avait cette tendance à se déporter un peu côté gauche. Et Robert Pires faisait toujours l'appel qu'il fallait soit dans la surface, soit dans l'axe, soit un petit peu en décrochant. Et effectivement, comme à l'image de Patrick Vieira, je ne suis pas sûr qu'on ait vu cette version-là de Thierry Henry en équipe de France. Parce que c'est pas les mêmes schémas, c'est pas les mêmes habitudes de jeu. Et oui, de toute façon, les joueurs d'Arsenal, ils répétaient les circuits de passe à l'entraînement. Et il y avait trois cibles. C'était Vieira, Bergkamp, Henry. Et il fallait le plus vite possible arriver à Thierry Henry et ça pouvait passer par Vieira et Bergkamp, mais l'important c'est que ça allait très très vite devant.
Et juste sur la vitesse, il faut dire quand même que à gauche, la blessure de Silvinho en fait a été favorable pour la vitesse, parce que c'est Ashley Cole qui est rentré dans l'équipe alors qu'il était très jeune, et là c'était un avion de plus quoi.
Oui, puis à droite c'était Lorraine qui est un ancien milieu droit qui a été reconverti latéral droit, donc voilà, c'était vraiment pareil, pour l'époque, c'était vraiment deux latéraux modernes qui multipliaient les allers-retours et ça aidait aussi Pires et Ljungberg à s'insérer un petit peu, à revenir un petit peu vers l'axe et à faire ces appels un peu dévastateurs. Et il y a beaucoup de buts qu'ils ont marqués cette année-là qui sont des mouvements où en fait, il y a soit un milieu offensif qui arrive dans la surface lancée et aussi beaucoup de buts de Thierry Henry en profondeur, ça faut le dire quand même.
Ouais. En parlant de Thierry Henry, est-ce qu'il avait une relation technique particulière avec Robert Pires?
Oh bah ouais, ça a déjà été documenté. Il y a plein de passes décisives de Robert pour Thierry. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je trouve qu'il est dans une forme de plénitude. Bon, il y a plusieurs années où il est vraiment très fort, mais il marque des buts qui sont vraiment très impressionnants. On en parlera, par exemple, celui qui marque contre Liverpool où il part arrêté. Il prend de vitesse de tout le monde en partant arrêté et il finit seul en ridiculisant Jamie Carragher. Ça, c'est vraiment des choses qui ont marqué la psyché du foot anglais. Et il y a un truc que je dis souvent, c'est que Thierry Henry, on ne s'en rend pas forcément compte vu de France à quel point il a marqué les gens outre-Manche, mais c'est complètement dingue. Pendant le confinement, les Anglais, ils avaient fait un classement des meilleurs buteurs, des plus grands joueurs de l'histoire de la Première Ligue. C'est The Athletic qui avait fait ça, donc qui est quand même un média de référence.
Depuis 92, donc. Enfin...
Oui, c'est vrai. Oui, non, effectivement, première ligne, depuis 92. Mais du coup, on pourrait penser qu'ils auraient mis Shearer ou Giggs, et ils ont mis Henry, premier. Enfin, c'est-à-dire, c'est le plus grand joueur du championnat le plus médiatisé. Et je veux dire, de France, nous, on le présente souvent comme, voilà, je sais pas, un des cinq plus grands joueurs français, mais il n'est pas... On ne célèbre pas tout le temps ses talents, je veux dire.
Tandis qu'en Angleterre. Il n'est jamais dans les trois, en tout cas.
En tout cas, il est jamais dans les
trois. Il est dans les cinq, mais jamais dans les trois.
Voilà. Et Vincent le formule bien mieux que moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'aura qu'il a en Angleterre. Et juste pour terminer, cette saison-là, il a fait des choses qui ont vraiment marqué et durablement les gens. Ouais.
Et Robert Pires aussi, qui revenait à ce moment-là à son meilleur niveau après s'être rompu les ligaments croisés en 2002, blessure qu'il avait privé de la Coupe du Monde.
Ouais, il avait déjà bien fini la saison précédente, mais là, c'était vraiment, il avait retrouvé toute l'explosivité qui le caractérisait aussi, cette complémentarité avec Henry sur le côté gauche, c'était vraiment, c'est un truc assez impressionnant à voir, hein, parce que les mouvements de l'un appellent ceux de l'autre, etc., et ainsi de suite. Et enfin, il y a beaucoup de buts où Henry peut partir côté gauche, s'appuyer sur Bergkamp ou Ljungberg qui remet en profondeur pour Pires qui est lancé dans la surface. Moi, c'était un schéma qui s'est répété très souvent cette saison-là. Et c'est un petit peu le... Ouais, s'il y avait un duo, parce qu'on parle souvent du duo Bergkamp-Henry, qui était effectivement très beau à voir, mais je pense que le duo majeur de cette équipe-là, c'est quand même Pires-Henry.
Et là, c'est vrai que j'ai deux de lignées de la tête, ce qui ne se voit pas beaucoup dans les, dans les podcasts. Mais en fait, c'est parce que je pensais au Pires de 2002. Mm. Je vais vous dire la vérité, je ne me suis jamais remis de sa blessure par rapport aux horizons que j'imaginais. Honnêtement, quand il se blesse au printemps 2002...
C'est le meilleur joueur du monde.
Allez, c'est le meilleur joueur du monde. J'ai déjà écrit, et je pense que c'est le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Ce qui fait absolument incroyable en équipe de France. Il est plus fort que Zidane, il fait des trucs de fou. Et on se disait, avec lui à la Coupe du Monde, mais ça va être un truc de malade. Et sans lui à la Coupe du Monde, ça a été un truc de malade.
Pour en revenir à cette saison si particulière, est-ce que vous avez des souvenirs d'Arsène Wenger pendant les matchs? Comment est-ce qu'il se comportait à ce moment-là?
L'hiver, il n'arrivait pas à mettre la fermeture éclair de son manteau. Comme il a fait pendant 20 ans, se battre avec son zip. Pendant les matchs, non mais Arsène, c'est pour un type qui passe pour un calme, c'est un faux calme. C'est un gars qui est éruptif, qui s'engueule avec... je suis pas sûr qu'il y ait le quatrième arbitre à l'époque régulièrement.
Si ça commence, ouais,
mais il y avait au moins un délégué ou au moins.
Oui, il trouvait quelqu'un. Je m'inquiète pas pour lui.
Ouais, il y avait quelqu'un et puis parfois avec les adversaires.
Ouais, pour avoir la dent dure.
Avec Ferguson. Ouais, ouais, c'est quelqu'un.
Moi, après le match contre United à Old Trafford, on en parlera. Ce qu'il dit sur Van Nistelrooy, il s'acharne sur lui. C'est un truc de ouf.
On peut.
Transition man.
Transition man, exactement. Belle passe décisive. Parce que ce match à Old Trafford, donc le 21 septembre, c'est le match qui a vraiment lancé cette folle saison, parce que Arsenal a enchaîné 4 victoires et un nul lors des 5 premières journées. Et Arsenal se rend à Old Trafford, où Patrick Vieira se fait expulser après avoir tenté de donner un coup de pied à Ruud van Nistelrooy. Est-ce que je l'ai bien résumé?
Ah, mais c'est un western, ce match. Mais quand on voit les images, on se dit, mais aujourd'hui, c'est plus possible. C'est du foot moderne, mais en même temps, c'est plus du foot d'aujourd'hui. On voit plus jamais ça. Van Nistelrooy goes up to challenge. And as he comes down, he lands on him, but if he lands on him
accidentally, well, he didn't do anything really. Est-ce que tu peux raconter la suite des événements après le rouge de Vieira?
Voilà, c'est compliqué. Il y a Kion qui arrive là-dedans. Enfin, c'est très compliqué.
C'est-à-dire qu'après le rouge, donc United met la pression, ils sont en 11-10, il y a un penalty. Et donc là, et c'est très bien raconté, mieux que je ne le ferai dans le documentaire sur Wenger, où il y a Ferguson qui dit « J'ai toujours fait confiance à Ruud van Nistelrooy pour tirer les pénaltys. » La responsabilité reste avec Ruud van Nistelrooy. Oh, il a mis it. He has hit the bar. Il a l'air de dire comment il a pu me décevoir, parce qu'il va tirer ce pénalty dans les arrêts de jeu sur la barre. Et là, le match se termine dans la foulée et il y a une sorte de baston général. It's the final whistle. And Arsenal do get their draw, but it's not finished yet. They're all around Ruud van Nistelrooy. Il y a deux choses qui sont importantes, il y a Phil Neville qui était unanimement détesté qui est agressé, vraiment agressé, et il y a aussi finalement donc notre ami Martin Keown qui lui est un ancêtre dans cette équipe, qui est un représentant du Boring Arsenal des années 90, qui se jette sur Van Nistelrooy, mais vraiment, il saute à un mètre au-dessus de lui pour lui dire, d'un air de dire, ah bah voilà, Ah bah voilà, t'as fait expulser mon pote, t'as eu un penalty et tu l'as raté. Et le visage que fait Van Nistelrooy, on a l'impression que c'est un enfant.
Oui.
C'est très impressionnant.
Il y a une photo incroyable.
Mais pourquoi t'es méchant avec moi?
Ouais, il a l'air effrayé.
Et même Martin Kuhn, tout méchant qu'il est, a regretté cette image-là parce que ça faisait même peur à ses enfants, en fait. mais il y avait une telle tension et c'est même lui qui concède le penalty, en fait, Martin Kuhn. Donc pour lui, il devient responsable d'une défaite. C'est balbutiant, c'est le début de saison. On ne sait pas qu'ils vont finir la saison invaincus, mais s'il y a, enfin voilà, le projet peut être tué dans l'œuf, en fait. Et ce match-là, il y a un niveau de tension qui sera assez régulier dans les matchs entre les deux équipes à cette période-là.
Mais la plupart des joueurs d'Arsenal ont été sanctionnés, suspendus après. Il y a eu des amendes.
4 matchs, il me semble. Martin Kuhn, 3 matchs. Patrick Vieira s'en sortira avec un seul match, je crois.
Parce que il y a beaucoup de sanctions financières.
Ouais. Et en fait, ce match-là, autant... Auparavant, lundi, les joueurs prenaient un peu Wenger pour un fou quand il leur parlait de ce rêve de terminer invaincu. Autant à partir de ce match-là, ils vont devenir un petit peu habités. Parce que aussi, c'est pas n'importe quel adversaire en face, c'est Manchester United, c'est leur grand rival. Mais au-delà d'être leur grand rival, c'est le patron de la Premier League, Manchester United, et Alex Ferguson. Donc, ils sont un petit peu ce côté challenger et ils veulent se défaire de ça absolument. Et ce match-là est un tournant parce qu'ils se disent à ce moment-là, ok, c'est terminé, on n'est plus les petits qui prennent un titre de temps en temps. On est à leur niveau, on est meilleur qu'eux, on va leur montrer. Et il y a ce côté, ils se rassemblent un peu comme une famille, ils discutent de ce qu'ils ont fait. Ils se disent qu'ils sont allés un peu trop loin quand même. Mais ce côté habité par la haine de la défaite ou même de ne pas gagner, ça va les suivre jusqu'au bout de leur série. Et même le soir du titre, quand ils font match nul contre Tottenham à Tottenham, ce qui les assure du titre, mais ils concèdent un penalty dans le temps additionnel et Jens Lehmann et Sol Campbell s'embrouillent comme pas possible alors que les autres fêtent leur titre en fait. Donc voilà, il y a un rejet absolu de l'échec qui est assez viscéral dans cette équipe-là à partir de ce moment-là.
Et juste pour en revenir à Manchester, c'est aussi la rivalité entre Arsène Wenger et Alex Ferguson qui a porté les Gunners cette saison-là.
Oui, mais en même temps, il y avait un historique. Enfin, on se souvient de Vieira contre Keane. On se souvient de la demi-finale dramatique de Cup en 99, quand Giggs marque son but fantastique là, de 50 ou 60 mètres, il renverse tout. Et surtout, ils se détestent d'autant plus les deux, enfin, Ferguson et Wenger. Enfin, ils se détestaient parce que quand même, avec l'âge et le documentaire de Christian Jean-Pierre et de l'anglais Clark, dont j'ai oublié le prénom, montre à quel point quand même il y a le respect leur est venu avec la sagesse due à leur grand âge. Mais voilà, si c'est aussi chaud entre eux, c'est parce qu'ils incarnent les deux plus longues longévités du foot anglais. Et surtout, ces deux longévités qui sont pas loin dans le décor, ces deux longévités en première ligue. C'est-à-dire que voilà, c'est des concurrents pour les titres et ils détestent tous les deux la défaite de la même manière. Il y en a un qui parle un anglais élégant et l'autre un écossais qui est toujours catastrophique les jours où il a pas envie de se faire comprendre, mais oui, c'est une rivalité qui tourne aussi autour d'eux, mais ça part aussi des joueurs, c'est-à-dire que voilà, il y a l'incident Keane Vieira, c'était dans le couloir des vestiaires, il y a eu des jets de pizza, il y a eu des choses, il y a eu plein de choses entre United et Arsenal.
Et parce que c'est aussi Manchester United qui mettra fin à la série d'invincibilité de cette équipe-là la saison suivante.
À l'automne.
Dans un match, dans un autre match mythique, mais pas pour le jeu, et où il y aura effectivement une échauffourée dans le vestiaire. Où,
le Pizzagate.
Où une part de pizza arrivera dans le visage de Sir Alex Ferguson et le coupable s'est dénoncé il y a quelques temps, c'était Cesc Fabregas, qui avait 16 ans à l'époque.
Oui, tout jeune, voilà. Cesc Fabregas.
Exactement.
Mais ouais, non, ce qui est marrant, c'est à quel point c'est important. C'est encore aujourd'hui, les fans de Manchester United rappellent qu'ils sont invincibles contre les invincibles. C'est-à-dire qu'en fait, cette saison-là, ils se sont rencontrés 4 fois. Et en fait, il y a eu 3 nuls et une victoire de United en Cup. Voilà. Parce qu'ils sont aussi rencontrés au Charity Shield, en fait. Enfin, voilà, donc c'est pour dire qu'en fait, ils sous-entendent qu'à l'époque, United était malgré tout la meilleure équipe. Et ce que je voulais juste rajouter aussi, c'est que, en fait, Ferguson, ce que se jouait aussi, c'est le fait que Ferguson défendait dans l'esprit aussi. En fait, la nature de la Première Ligue, ses valeurs, soi-disant. Et en fait, il rappelait souvent que les problèmes, il y avait des problèmes en première ligue liés aux étrangers, en fait. Donc, par exemple, juste avant ce match dont tu parlais à Old Trafford, il y avait eu un match à Portsmouth où Pires avait provoqué un penalty en plongeant. Et en gros, Ferguson avait dit, oui, non, mais ça, c'est des gens qui, ils savent pas qu'en première ligue, on doit pas plonger parce qu'en fait, c'est pas des gens qui ont les valeurs, en fait. Derrière ça, il y avait plein, en fait, d'antagonisme, voilà, assez compliqué à dénouer, en fait.
Une critique de l'internationalisation.
Oui, quand ça l'arrangeait, mais bon. C'était lui-même, on a bien profité en fait.
On en arrive maintenant au 9 avril 2004. Je fais un saut dans le temps pour parler d'un autre match très marquant de cette saison-là. 32e journée, Arsenal reçoit Liverpool. Arsenal est mené 2-1 à la mi-temps avant un festival signé Thierry Henry et Robert Pires.
Ils sont dans une période très compliquée où, un peu à l'image de ce que vit Liverpool sur cette fin de saison-là, 2024, où ils auraient pu tout perdre en 6 jours, en fait. Ils sont éliminés de la Cup le 3 avril, il me semble, par Manchester United. 1-0, un match encore âpre, tendu entre deux amis. Et 3 jours plus tard, ils perdent le match retour de quart de finale de Ligue des Champions contre Chelsea à la 87e, alors que sur la double confrontation, il y a pas vraiment eu photo au niveau football, mais ils sont éliminés en quart de finale de Ligue des Champions, alors que c'était quand même un de leurs principaux objectifs. Et ils vont 3 jours plus tard recevoir Liverpool, et ils sont menés 2-1 à la pause. Et là, Thierry Henry dira, je crois que c'est dans le livre d'Amy Lawrence sur les Invincibles, si vous comprenez l'anglais, c'est un très bel ouvrage sur cette saison-là, et il dit qu'en fait, à ce moment-là, il sent le stade s'arrêter de respirer, parce que Arsenal est en train de tout ce qui est construit depuis 9 mois s'écroule. Mais en fait, ils sont menés à la mi-temps 2-1 et à la 50e, ils renversent totalement le match. Il y a 3-2 sur 2 buts magnifiques. Un sur un enchaînement Henry, Ljungberg, Pires pour égaliser. Et puis ce slalom dont Pierre-Étienne a parlé tout à l'heure, ce slalom géant de Thierry Henry parti de quasiment de la ligne médiane. Il fait tomber Dietmar Hamann et Jamie Carragher notamment. Bon, de finir avec son plat du pied signature. Il mettre un troisième but personnel en fin de partie. Et oui, c'est un petit peu le deuxième tournant de la saison après le match de Manchester United, où ils auraient pu tout perdre. Finalement, ils se sont remis totalement dedans. Et voilà, ce refus un petit peu viscéral dont on parlait tout à l'heure de la défaite les animera jusqu'à la fin.
Et ils sont sacrés champions d'Angleterre 4 journées avant la fin sur la pelouse de Tottenham, on l'a évoqué. Comment réagit la presse anglaise à ce moment-là? Qu'est-ce qui se dit?
Mais dire qu'il y a eu deux temps. Il y a eu le temps pour célébrer leur titre, mais à la limite, la période presque la plus importante et qui nous intéresse le plus, c'est les 4 journées qui restent. En fait, c'est là que tout le sel de l'aventure des Invincibles, il se déverse sur cette période-là. C'est à ce moment-là que ça bascule.
Ils sont champions. C'est presque plus compliqué que le reste.
Voilà, c'est ça. Ils sont champions au Tottenham. Et donc, ça a une valeur particulière, vu la rivalité entre les deux. Sol Campbell se faisait encore traiter de Judas à White Hart Lane, etc. Donc, ça a un vrai sens pour eux, ce match nul à White Hart Lane qui leur permet d'être champions. Mais là, il reste 4 journées et Arsène Wenger a d'ailleurs dit que c'était la période où il a vu le plus de stress dans la saison et qu'il avait fallu qu'à chaque fois, qu'il leur reparle jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée contre Leicester à la mi-temps quand ils sont menés. Il racontera qu'il leur dira à la mi-temps, on a gagné le championnat, mais maintenant, je vous demande de devenir immortel. Voilà. Donc en fait, ils ont eu toute cette pression et c'était terrible pour eux d'être menés comme ça encore à la dernière journée et d'être à quelques centimètres de perdre leur rêve.
Est-ce que vous vous souvenez de la résonance de ce rêve, de cette performance en Europe à ce moment-là?
Alors, du coup, comme je savais que tu allais poser cette question, j'ai regardé dans le journal L'Équipe ce qu'on a dit le lendemain du match contre Leicester. Donc, ils sont champions et donc ils sont invaincus. Performance remarquable. Je vous lis ce qui a marqué dans le journal L'Équipe le lendemain. Assuré du titre depuis la 35e journée, Arsenal a atteint son objectif devant Leicester, hier à Highbury, resté invaincu en championnat. Une seule équipe avait réussi cette performance dans l'histoire du foot anglais, Preston North End, 1888-1889, mais à l'époque, le championnat ne comptait que 22 journées. Point.
Donc, c'est la seule mention
factuelle.
C'est très factuel. Donc, on pourrait se dire que c'est n'importe quoi. Je pense que ça révèle le fait. Alors, c'était le lendemain d'un titre de Lyon aussi. Donc, je pense qu'il y avait eu de la pagination. Mais ça révèle quand même, je pense, et là, je parle sous le contrôle de Vincent, qu'il y avait quand même moins de. Même si c'était évidemment une performance hyper respectée, et dans les jours qui ont suivi, il y a eu des articles plus conséquents. Je pense que ça révélait que peut-être la première ligue avait moins la prégnance qu'aujourd'hui, non?
Alors, je sais pas, parce qu'on faisait plus de sujets en même temps sur le foot étranger qu'on en fait aujourd'hui. On avait plus d'envoyés spéciaux. Sur les matchs, on faisait plus de sujets d'une manière générale, mais comme Arsenal était champion, on avait envoyé personne, et la règle un peu à l'époque, c'était pas d'envoyé spécial, pas de papier, quand même globalement. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a eu une brève. Aujourd'hui, on fait beaucoup de papier devant la télé, pour des raisons notamment budgétaires, de déplacement, etc. À l'époque, en 2004, les questions budgétaires n'existaient pas. C'était, est-ce qu'il y a de la place dans le journal ? C'était jamais combien ça coûte. On vendait 400 000 exemplaires par jour. Enfin voilà, c'était vraiment pas un souci. Donc je pense effectivement, c'est parce qu'il y avait personne. Ça justifiait pas qu'on se déplace. Et puisque ça justifiait pas qu'on se déplace, on n'a pas fait de papier là-dessus. Alors je sais pas si dans les jours d'après, on a fait quelque chose qui donnait
la
mesure.
Oui, le lendemain, effectivement, il y a eu quand même un compte-rendu de la fête qui a suivi. Pour être tout à fait honnête.
Mais c'est vrai que... on se rend compte que c'est avec le recul qu'est venue un peu la mythologie de cette saison-là.
Ah, depuis 2004, en tout cas dans le Big Five, seule la Juventus Turin a réalisé pareil exploit en 2012 avec Antonio Conte. Et c'est vrai que tu voulais qu'on précise que Porto, de façon un peu plus large...
Porto l'a fait deux fois en 2011 et 2013, il me semble, dont une fois avec André Villas-Boas, où il gagne aussi la Ligue Europa et la Coupe. Si mes souvenirs sont bons. Donc oui, c'est une rareté, mais parce que ça tient tellement à rien. On a cité quelques matchs d'Arsenal, mais il y a évidemment des matchs un peu bourbiers où ça se joue à rien, où les adversaires disent qu'ils se sont fait à moitié voler. On le voit aussi avec Leverkusen cette saison, ça ne tient à rien en fait. Parfois, il faut un peu de miracle. Parfois, ça passe, parfois, ça passe pas. Manchester City a fait des saisons à 100, à 98 points. Sans être invaincu. Donc, cette saison-là d'Arsenal, par exemple, ce n'est que le 12e plus haut total de points en Première Ligue depuis 92. Donc, il y a beaucoup de matchs qui sont vraiment joués à rien. Il y a ce côté mythologique, vraiment. C'est aussi. Il ne faut pas oublier que ça tient aussi parfois un petit peu de la chance et du miracle, même si cette équipe était très forte.
Vincent, tu voulais faire un parallèle avec
ça? Non, mais c'est exactement ça. Je voulais dire qu'en fait, en gros, il y a un match sur trois qu'ils ne sont pas arrivés à gagner cette saison-là. C'est-à-dire qu'ils font 12 nuls, c'est énorme. Enfin, c'est beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a eu d'autres champions qui ont été bien plus flamboyants que cet Arsenal-là, en perdant un match, en perdant deux matchs. Donc, Mais avec le recul, en fait, je trouve ce qui a construit la mythologie de cette saison, c'est la manière dont elle a été racontée. Je trouve qu'elle a été très bien racontée, très bien documentée, et que cette espèce de tension qui monte, et de rester toujours sur un fil ténu et de jamais en tomber, c'est vraiment ça qui a créé un peu cette magie-là. Puis, bon, évidemment, ce qui s'est passé sur le terrain, mais... Il y a quand même cette particularité du football anglais de savoir mieux raconter les histoires qu'ailleurs, quand même, globalement. Je trouve que c'est un petit peu différent. Je ne dis pas qu'à la Juve, par exemple, quand c'est arrivé, ils l'ont moins bien raconté. Mais bon, en plus, comme c'est la Juve, on se demande toujours s'il y a pas deux, trois matchs, quelques pénaltys, des choses comme ça. Au moins, là, ce n'est pas le cas.
Après, moi, ce que je trouve touchant, en fait, c'est que c'est aussi la fin d'un monde, d'une certaine manière. C'est qu'avec le recul, on se dit... Peut-être que c'était la seule année la dernière année où il pouvait le faire, parce que 2003, c'est l'année où il y a Abramovich qui reprend Chelsea. Donc à partir de là, il y a énormément d'argent et le Chelsea des années suivantes, en fait, il sera très dur à battre. Et plus globalement, c'est le symbole du fait qu'il y aura énormément d'argent dans les équipes si Manchester City va en profiter. Et c'est aussi 2003, l'année où vient Cristiano Ronaldo. Et en fait, je ne vais pas en faire des tonnes, mais c'est aussi le moment où voilà, c'est le règne un peu des super joueurs et des joueurs comme Cristiano et Messi, ils ont fait vivre des cauchemars à Wenger en fait. Et en fait, lui, c'était un peu le promoteur avec des guillemets, parce que tout ça doit être nuancé, mais d'un football quand même assez collectif où il y avait des valeurs de combat collectif, on se tient les coudes, on arrive, on combat l'adversité, même si d'une certaine manière, on a moins de moyens que les autres. Et je pense que c'était le dernier moment pour le faire, parce que les années suivantes, en fait, l'adversité, collective des clubs et puis individuelle, elle sera trop dure.
Et puis c'est aussi le moment où le club doit commencer à payer l'Emirates Stadium, et donc à moins de moyens pour lutter sur le marché des transferts. Et donc, ils vont passer d'une époque où ils vendaient des joueurs de 30 ans passés à une époque où ils vont devoir vendre leurs meilleurs joueurs à 25-26 ans. Donc, fatalement, c'est un petit peu aussi un tournant dans l'histoire du club. Mais ça se finit d'une manière... On peut aussi dire qu'ils ont quand même été en finale de Ligue des Champions 2 ans plus tard avec une équipe un petit peu différente. Mais voilà, c'est un tournant dans l'histoire du club aussi.
Oui, mais paradoxalement, c'est pour ça que je voulais rentrer dans la conversation. C'est qu'en fait, s'ils avaient remporté la Ligue des Champions en 2006, comme ils auraient dû le faire, ben à 11 contre 11, je pense qu'ils auraient gagné. Et même à 10 contre 11...
Je rappelle qu'ils perdent en finale contre
Barcelone au Stade de France, voilà. Mais même à 10 contre 11, ils ont failli gagner parce que le but de Belletti arrive vraiment très très tard dans le match. Et s'ils avaient gagné ça, je sais, peut-être que la saison des Invincibles n'aurait pas pris autant d'importance dans la légende du club. Mais aujourd'hui encore, plutôt que dire champion d'Europe en 2006 et bannière à l'Emirates, il y a toujours la bannière, les Invincibles, match après match, et depuis 20 ans maintenant.
Et le documentaire sur Wenger s'appelle L'Invincible. Voilà. Donc c'est clairement effectivement ce qui va rester prioritairement de sa carrière.
Et alors, qu'est-ce qu'il reste des Invincibles chez les Gunners de Mikel Arteta aujourd'hui?
Bah, déjà, il reste Edu. Donc Edu qui était au milieu avec Gilberto Silva, l'autre, le pendant de Vieira. Et là, bah, du coup, je vais citer Amy Lawrence, qui a été interrogée sur le sujet. On lui demande, qu'est-ce qu'il y a dans l'équipe actuelle des Invincibles? Alors, spontanément, elle a cité un truc, c'est que, comme on avait parlé tout à l'heure, il y avait tout un truc des Invincibles, de l'intimidation dans les couloirs très ténus d'Highbury. Et il dit, en fait, visiblement, Arteta, il a mis en place ça en mettant son capitaine au moment de l'entrée et les quatre défenseurs au début de la file et qui sont assez impressionnants, les quatre défenseurs actuels, pour dire on est là, et ils tirent la gueule, si je peux me permettre cette expression, et en gros vous allez passer il y a vraiment de l'intimidation, donc ça ils se sont inspirés de ça. Mais elle disait que quelque part l'équipe actuelle elle devait aussi beaucoup au boring Arsenal dont on parlait tout à l'heure, parce qu'ils ont une obsession pour la défense. Vraiment l'équipe Arsenal actuelle elle défend extrêmement bien. Quand ils mènent au score, il y a très peu de chances qu'ils soient rejoints. C'est la meilleure défense de première ligue, et ça c'était pas forcément la caractéristique absolue des Invincibles. Donc je dirais que dans l'équipe actuelle, je sais pas s'il y a tant de choses que ça qui reste.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas Thierry Henry. C'est-à-dire, c'est une équipe qui joue sans avant-centre. Ouais. Son avant-centre, Gabriel Jesus, marque pas assez pour jouer régulièrement. Du coup, c'est Kaya Wertz qui occupe le poste d'avant-centre, et c'est pas du tout la même chose. Mais cette équipe-là avec Thierry Henry, mais elle serait quasi injouable. Elle serait injouable. Mais bon, ce qu'ils font, c'est pas si mal. Le reste, c'est pas si mal.
Ouais, mais je pense qu'au-delà de ça, ce qui reste à Arsenal, c'est une certaine idée de la façon dont le football doit être joué. C'est ça qui reste aussi. Alors, c'est plus facile à dire maintenant qu'il y a 3-4 ans, où c'est un peu plus compliqué au niveau du jeu et des résultats. Mais je pense qu'il n'y a pas cette équipe-là avec Mikel Arteta s'il n'y a pas, évidemment, toute la révolution Wenger il y a 20 ans. Donc ça aide aussi à se mettre dans le football moderne, parce que Arsenal a été un club précurseur en Angleterre à ce niveau-là. S'il n'y a pas Wenger, il n'y a pas Benitez qui arrive en 2004, il n'y a pas Mourinho qui arrive en 2004, et ainsi de suite. Donc, jusqu'à Pep Guardiola, Jurgen Klopp. Donc, toute l'internationalisation des entraîneurs, qui aujourd'hui est prégnante dans le championnat, elle n'existe pas s'il n'y a pas Wenger, Benitez et Mourinho qui mettent un petit peu un coup de pied dans la fourmilière.
Bon, c'est aussi l'argent de la Première Ligue qui a changé aussi le visage de la Première Ligue. Je lis un truc sur Leeds, champion en 92. Ils montraient le chèque qu'ils avaient gagné pour être champion, où c'était 100 000 livres. Donc voilà, autre temps, autre mœurs.
Oui, non, mais c'est vrai qu'on peut reconnaître à Arteta quelque chose, c'est qu'il est obsédé par la culture du club et son identité. Et c'est vrai qu'il a, comme tu l'as très bien dit, il essaye quand même de donner une sorte de continuité dans le jeu sur quelque chose d'assez créatif et offensif malgré tout.
Après, encore une fois, le côté intimidant et méchant n'existe plus aujourd'hui. Et de toute façon, il ne pourrait pas exister de la même manière. Parce que
Ça n'existe que dans le tunnel.
On va dire que je m'acharne, mais Patrick Vieira fait 98 fautes cette saison-là, en 2003-2004. C'est le double de Gilberto Silva, qui est deuxième de ce classement-là.
Et encore, c'est seulement celles qui ont été sifflées.
Voilà, exactement. Et évidemment, il y avait une agressivité qui était plus permise à l'époque qu'aujourd'hui. Et il prend 11 cartons jaunes sur la saison, je crois. Donc, il y avait aussi cette identité-là d'intimidation permanente sur le terrain, pas que dans le tunnel. Ça participait aussi à étouffer les adversaires, d'ailleurs, parce qu'il fallait vite lâcher le ballon.
Mais pour ça, il a fallu qu'il se fasse... Je me rappelle, j'avais fait une interview de lui après la finale de la Coupe du Monde, au début de la saison 98-99. Bon, il était quand même Arsenal depuis
96,
ouais. Ouais, et il disait que, justement, les deux premières années, il était très frustré parce que les arbitres anglais ne le laissaient pas faire la même chose que les milieux de terrain anglais. C'est-à-dire que lui, il voulait être aussi dirty que les autres, il voulait mettre les mêmes brins. Et on disait, non, vous, monsieur Vieira, non, carton, non, il y a faute, etc. Donc en fait, et après, il en a reparlé, il a dit, mais après, on m'a enfin laissé faire les mêmes choses que les autres. Et là, oui, c'est tombé. Là.
Une fois qu'il avait le brassard et qu'il pesait 15 kilos de plus, c'était plus facile.
Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci aussi à Baptiste Binet pour l'enregistrement et à Roland Richard pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode un peu spécial vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine.